Derrière la magie du sport de haut niveau se cache une triste réalité d'athlètes malmenés et abusés. Et pour que ça cesse, il faut en parler.
Avec Jean-Luc Brassard, l'envers de la médaille. Mardi, 20h, sur la chaîne Témoin. Débrouillez dès maintenant.
Vous écoutez
Avocat à la barre.
Un gros procès qui se tient aux États-Unis. Procès de George... Ben, pas de George Floyd. L'affaire George Floyd, c'est le policier qui est accusé de l'avoir tué. Rappelez-vous de l'histoire troublante qui avait été filmée. Le policier qui a le genou pendant à peu près au-delà de 6 ou 8 minutes sur le cou de George Floyd. Et il en décède. Donc, accusation de meurtre très sévère aux États-Unis. Gros procès de société aussi. Il y avait eu des manifestations, évidemment. Ça a choqué beaucoup de gens. Ça a relancé tout le débat sur le racisme. Même au début du procès, parce que c'est un gros procès, il a fallu sélectionner le jury. Pas évident dans un procès comme ça médiatisé. Et au début du procès, l'avocat de la famille ont même mis avec la famille, ont mis un genou à terre pendant la durée qu'on a étouffé George Floyd, et une durée interminable là, qui est très significative pour ce genre de procès-là. On en parle avec Maître Jean-Pierre Rancourt. Bonjour.
Bonjour à vous.
Gros procès. On va décortiquer un peu ce qui se passe. Au départ, là, c'était la sélection du jury. Ça n'a pas dû être évident, là.
Non, parce que ça a fait tellement la manchette là-bas, dans la communauté. C'est difficile de trouver des jurés qui sont impartiaux. Mm-hmm. Mais c'est le travail du juge de faire ça. On l'a vu ici au Québec. Le procès des Hells Angels, par exemple, ou Turcotte, c'est tellement médiatisé. On pense qu'on peut pas trouver des jurés, mais une fois bien expliqué et une fois qu'ils sont interrogés, un candidat juré peut dire, ben, écoute, moi, là, à zéro. Je vais écouter la preuve et je déciderai en fonction de ça et je suis prêt à être assermenté que c'est comme ça que je vais agir. Mm-hmm. Alors, est-ce que ça va être ça jusqu'à la fin? Des fois, on en doute quand on fait des procès, mais les jurés doivent être impartiaux, doivent juger uniquement sur la preuve et non pas sur les médias, ce qu'ils ont entendu avant le procès.
Mais mettre en cause, ça ne veut pas dire que le juré a pas entendu parler de la cause. Ça, c'est quasiment impossible. C'est vraiment...
C'est ça, c'est impossible.
C'est ça. C'est vraiment qu'il n'y a pas de préjugés. Là. Il est impartial.
Oui, absolument. Et c'est ça qui est difficile pour... en tout cas, pour les avocats de défense, j'en ai fait plusieurs, les procès médiatisés. Mm-hmm. On ne sait jamais. C'est bien beau que le candidat juré dise au juge, oui, je comprends, je vais jurer uniquement sur la preuve et non pas ce que j'ai entendu. Je vais mettre ça de côté. Mais quand le procès débute, puis quand on est rendu aux délibérations, est-ce qu'on a mis ça de côté réellement? On ne le sait pas parce que personne n'est dans la salle de délibération avec eux.
OK. Et on doit être des fois inquiet que les jurés s'informent parce qu'ils n'ont pas le droit d'écouter les nouvelles. Là, puis,
non, pendant opinions. Le procès, c'est sûr que ça va bien parce que là, ils n'ont pas le droit d'écouter les nouvelles. Puis souvent, ils sont séquestrés à la fin du procès. Mais et même si, vous savez, avec l'électronique aujourd'hui, les nouvelles, on les a dans la seconde qui suit.
Ouais.
Alors, est-ce que chez eux, le soir, les jurés n'écoutent pas ça, sont portés à le faire? On se fie à leur bonne foi, mais c'est pas évident.
Parce que, Maître Rancourt, si on avait la preuve, que ce soit aux États-Unis ou au Canada, qu'un juré s'informe malgré sa fonction, ça serait assez pour avorter un procès ou?
Ben, ça pourrait. Ça dépend toujours de ce que on a comme preuve, mais le juge aurait le choix soit de libérer ce juré-là et dire, ben, écoutez, vous allez rester chez vous, on va continuer à 11, ou avorter le procès, c'était tellement important parce qu'il a contaminé ses collègues.
OK. Parce que souvent, on prend des suppléants aussi. Il y a des jurés qui sont là au cas, justement, qu'il arrive quelque chose pour pas être obligé d'avorter. Parce qu'aux États-Unis, c'est à peu près comme ici. Je pense qu'ils sont 14 jurés, là.
Oui, ça dépend des États, ça dépend des procès, mais... Okay. C'est un peu comme chez nous, oui.
Mm-hmm. Et là, le procès est amorcé. Il y a toute une preuve à faire. Là, on entend plusieurs témoins qui ont vu l'événement. Là. Qu'est-ce qu'ils viennent dire un peu?
Oui. Moi, j'ai écouté pas mal toute la journée hier là, parce que c'est diffusé en direct à HLN, le CNN. Alors, j'écoutais ça. Ma première impression, c'est que quand on voit, parce que nous, ce qu'on a vu à date, c'est les dernières minutes hein, okay. où le Chauvin a le genou sur Floyd. Mais avant ça, on procède à une arrestation et l'individu ne veut pas se faire arrêter. Il résiste, il crie, il fait tous les temps. On voit bien qu'il est sous l'influence de la drogue.
Ah, ouais.
Alors, c'est ce qu'on... Et moi, quand je regarde les épisodes de A à Z, je me dis, ouais, c'est pas drôle pour les policiers de faire leur job dans un contexte comme ça, mais c'est sûr, ça autorise pas un policier à tuer quelqu'un. Mm-hmm. Mais quand même, ça nous fait comprendre davantage le travail des policiers qui est extrêmement difficile dans ça. On va arriver avec un verdict éventuellement. C'est les jurés qui vont décider. Mais là, la défense qu'ils font aujourd'hui, on a interrogé copine de Floyd, qui était okay. dans la boîte des témoins ce matin, qui révèle que, bon, oui, c'est vrai, il prenait de la drogue, des opioïdes ensemble, ou c'est un gars qui prenait beaucoup de drogue, qui l'achetait de tel individu. Alors, la défense veut démontrer que au moment des événements, la mort n'aurait pas, ne serait pas survenue si, par exemple, il n'avait pas été dans un état d'intoxication aussi importante.
OK, la mort ne serait pas survenue. Parce que au procès, au départ, aux États-Unis, c'est le ministère public qui fait sa preuve?
Oui, absolument, c'est ça. Mais en contre-interrogatoire,
okay,
la défense essaie de faire sortir, surtout ce matin avec l'ex-conjointe ou copine, là, on a mis l'accent sur la drogue. Mm-hmm. Vous avez consommé de la drogue, lui en consommait beaucoup, etc. Et parce qu'on veut démontrer, quand on regarde les images qu'on a passées hier, des caméras, des policiers eux-mêmes, ils ont toute une caméra sur eux à ce moment-là, il y a des passants qui ont filmé, mais ouais. il y a aussi les policiers à partir de A jusqu'à Z. Alors, on voit que cet individu-là, il est sous l'influence de la drogue, c'est évident. Là.
Okay.
Alors, c'est un peu là où on va aller, puis c'est peut-être la seule défense qu'on a, là, si jamais ça passait.
C'est ça, donc on voit apparaître dans le contre-interrogatoire un peu la ligne de défense là,
Exactement.
Qui sera de dire le décès n'est pas causé par le genou sur le cou, mais plus par une consommation de drogue.
Ben, les deux, par exemple, s'il n'y avait pas eu le genou au cou, il ne serait pas décédé, mais ce que la défense va plaider, je pense, c'est que s'il n'avait pas été dans cet état d'intoxication, le genou au cou n'aurait pas causé la mort. C'est peut-être probablement là qu'on veut aller.
Okay.
Et c'est pour ça qu'on parle de drogue et dans quel état il était à ce moment-là. Alors,
okay.
on verra. Mais,
je comprends.
C'est sûr que, oui, c'est sûr que quand on voit le policier à la fin, là, qui continue la pression de son genou, moi, je me disais, ben, lâche-les, puis dis-lui, bon, maintenant, on t'en met assez, là, faut que t'embarques dans le véhicule.
Ouais.
Parce qu'on a essayé pendant des 15-20 minutes de l'embarquer dans le véhicule, puis il n'embarque pas.
Mm-hmm.
Et il faut le forcer, puis tout ça. Alors, donne-lui une dernière chance, et il commence à être faible, tu sais, avant qu'il perde conscience.
Ouais.
Et d'ailleurs, il y a des témoins. Il y avait une femme qui était pompière là-bas, qui est là, qui dit hey, lâchez-le, laissez-moi regarder son pouls. Il ne grouille plus, là. Puis les policiers ne veulent pas, là, tu sais. Alors, ça, à ce moment-là, ça va être déterminant, à mon avis, pour les jurés. On aurait dû arrêter à ce moment-là et lui permettre d'entrer dans le véhicule parce que là, il bougeait quasiment plus.
Oui. Et dans le fond, ce qu'on veut dire du côté de la défense, c'est un peu qu'il y a une technique policière qui a été utilisée et que si ce n'était pas de la drogue, il ne serait pas décédé.
Absolument. C'est là qu'on va, je pense.
OK. Ouais, ouais. Et des fois, au Canada, on entend ça, la théorie du crâne fragile, là, qu'on prend la victime dans l'état qu'elle est. Est-ce que ça peut jouer contre le policier, disant, bon, oui, il y avait de la drogue, mais à quelque part, vous aviez pas... il fallait le prendre comme il était, là? Est-ce que ça joue?
Oui, c'est ça. Étant donné sa condition, vous le saviez qu'il y avait une condition importante au niveau de la drogue. Mm-hmm. Alors, vous deviez prendre des précautions pour ne pas le maganer, pour ne pas que ça empire sa condition. Alors, oui, ça va jouer ça aussi.
Mm-hmm.
Mais c'est sûr que je vais pouvoir attendre. Mais si jamais ce policier-là était acquitté, la ville de Minneapolis là, serait à feu et à sang, je pense. Parce que
ouais,
c'est terrible. Il y a eu tellement de manifestations au début. Puis on sait que c'est une ville à majorité noire. Alors, c'est évident qu'on s'attend à un verdict de culpabilité. S'il est déclaré non coupable, ça va être des émeutes.
Oui. Et là, la difficulté, c'est que les jurés ne doivent pas prendre ça en considération. Sinon,
absolument,
la justice...
Ils ne peuvent pas.
Ouais.
Mais ils ne sont pas fous, les jurés. Là. Ils ont vu ce qui s'est passé avant au niveau des émeutes. Et là, ils vont être dans leur petit soulier d'arriver avec un verdict de non-coupable à la fin en se disant « Écoute, il va y avoir une révolution là, dans la ville si on fait ça. »
Ah,
c'est sûr
ouais.
que ça va jouer. Même si le juge leur dit de ne pas prendre ça en considération, qu'ils ne doivent pas, ils doivent juger uniquement en fonction de la preuve puis être convaincus hors de tout doute raisonnable. C'est le même principe qu'au Canada. Hors de tout doute raisonnable que le geste posé, le policier voulait la mort de cet individu-là.
Mm-hmm. Oui, c'est vraiment c'est délicat, comme on peut dire. Et au Canada, les jurés ne sont pas obligés d'expliquer pourquoi leur décision. Est-ce que c'est comme ça aux États-Unis aussi? Est-ce que...
Un peu comme ça, mais à la différence qu'il y a souvent, et presque tout le temps dans les cas comme ça, une conférence de presse où le président ou la présidente du jury donne certaines explications après. Est-ce que ça va être le cas? Je ne sais pas. Mais nous autres, au Canada, les jurés ne peuvent pas parler aux médias, à personne des délibérations. Mm-hmm. Aux États-Unis, dans certains États, et concernant certains procès, oui, on peut, ils peuvent s'exprimer après le procès.
Donc, ça peut être une difficulté de plus pour le jury de que ça soit pas seulement une décision émotionnelle, mais il doit vraiment appliquer les règles de droit.
Absolument.
Ils peuvent avoir peut-être plus de comptes à rendre sur leur verdict. Là. Donc,
ouais,
on comprend
ouais.
bien. Merci beaucoup, Maître Rancourt. Très éclairant. On va s'en reparler certainement parce que ça se poursuit. C'est un gros procès. Sans parler aussi des autres procès, parce qu'il y avait des policiers qui ont assisté à ça. Est-ce qu'ils ont été fautifs de ne pas intervenir? On s'en reparlera. Merci, bonne journée.
Merci, bonne journée à vous.
Merci.